J'aimerais vous partager ce soir une réflexion sur ce qu'on appelle les trois joyaux, the triple gem, le Bouddha, Dharma, Sangha. Comme on le chante le matin, c'est bon que chacun sente qu'est-ce qu'il met derrière ces mots. Le refuge dans le Bouddha, pour les pays orientaux, c'est beaucoup, le Bouddha est considéré beaucoup comme une sorte de Dieu qui, pour, envers lequel, envers le Bouddha et toute la Sangha monastique, les orientaux font beaucoup de cadeaux, ils vont faire à manger, ils se font des mérites. En étant généreux pour la Sangha, c'est très beau de voir cette dévotion, c'est un chemin dévotionnel. Et le Bouddha est considéré comme un dieu extérieur. Ils ne pratiquent pas beaucoup, mais ils ont ce chemin-là qui est un chemin de... projection, on pourrait dire, dans une déité qui correspond à ce qui résonne profondément en eux. En Occident, en général, nous sommes assez, on ne peut pas dire en Occident, mais en tout cas dans le bouddhisme occidental, le Bouddha est considéré plus selon son aspect historique. C'était un homme qui a vécu, c'est prouvé historiquement, qu'il venait d'une famille riche. L'histoire dit qu'il était prince, il y a quelques doutes, mais c'est égal. En tout cas, il était bien nanti. Et l'histoire dit encore que son papa voulait le garder pour lui, mais que malheureusement, à sa naissance, on a dit qu'il serait moine. À l'époque, dans l'hindouisme, il y avait beaucoup d'ascètes qui partaient vivre dans la forêt. Alors son papa a tout fait pour éviter qu'il ne souffre, pour pas qu'il parte, pour qu'il reste dans son bon confort. Mais après qu'il ait eu son premier enfant, il est sorti de sa maison et puis l'histoire dit, tout le monde la connaît, qu'il a rencontré un mendiant et puis un malade et puis un pauvre, un malade et un corps pour finir. Et que ça l'a éveillé à sa quête intérieure parce qu'il a vu que la vie n'était pas aussi douce que ce qu'on lui avait, on avait essayé de lui montrer. Et il a commencé par faire une ascèse très puissante, comme ça se faisait à l'époque, avec des privations, un renoncement énorme, et avec un but à atteindre. Et il n'arrivait à rien. Et un jour, il s'est souvenu d'un moment dans le jardin de son père où il était assis tranquillement. Il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait aucun attachement. Et c'est ce qui lui a permis de développer cette manière de voir les choses qui est tout à fait particulière, parce que dans le bouddhisme, nous ne courons pas après l'éveil, nous regardons les choses telles qu'elles sont, et l'éveil est une grâce qui arrive peu à peu ou tout soudainement. Et le premier, quand il a eu son illumination, ce qu'il a vu, c'est les quatre vérités nobles. C'est la première chose qu'il a compris. Il y a souffrance, que le monde est imparfait, qu'il y a une cause à la souffrance, c'est notre incapacité à accepter ça. Et nous sommes toujours dans le désir d'une harmonie jamais atteinte. Qu'il y a une fin à la souffrance, c'est d'arrêter ce jeu de chercher ailleurs que maintenant. Et comme c'est difficile d'arrêter directement, il a proposé le chemin. Le chemin à 8 voies qui a ses 3 aspects d'éthique, exercice et compréhension. Et pour la petite histoire, quand le Bouddha, enfin la grande histoire, quand le Bouddha a été éveillé, il a rencontré ses amis avec qui il avait fait des nombreuses années d'austérité, et puis il leur a dit, regardez, je suis éveillé, je suis celui qui a tout compris, j'ai atteint le but que vous cherchez depuis qu'on cherchait ensemble. Puis ils lui ont dit, celui-là il est un petit peu gaga, il est pris par l'égocentrisme. Déjà qui fait plus ses austérités depuis longtemps, alors vraiment. Alors il a changé sa manière de dire. Et la personne suivante qu'il a rencontrée, il a dit, il y a souffrance, il y a une cause à la souffrance, il y a une fin à la souffrance, et il y a un chemin vers la souffrance. C'est et alors ça a beaucoup éveillé l'intérêt. Parce qu'on a tous vraiment envie d'arrêter de souffrir. Quand nous prenons refuge dans le Bouddha, en fait, nous prenons refuge dans cette humanité qui a cet énorme potentiel de libération. Et dans toutes les religions, dans le christianisme bien compris, il y a Christ en moi, là on peut dire Bouddha en moi, ou la conscience pure, dont nous sommes une sorte d'étincelle. Et comment est-ce que nous pouvons concrètement exprimer ce cœur de l'être ou cette essence de la nature humaine? Dans le bouddhisme, ce qui est pour moi merveilleux, c'est que nous pouvons concrètement le pratiquer en étant présent ici et maintenant. Et cette présence aux choses telles qu'elles sont, au moment où je suis présente aux choses telles qu'elles sont, je suis au cœur. Mais c'est pas toujours possible. C'est très facile quand nous sommes dans de bonnes conditions, qu'il n'y a personne qui nous menace, que je n'ai pas faim, que je suis en bonne compagnie, pas avec des gens qui sont avec des valeurs très différentes. C'est difficile de garder énergétiquement cette forme de simplicité. C'est très facile de comprendre ce que c'est et d'être là, mais c'est très difficile à maintenir. Au fond, c'est tout le chemin. Donc, quand je prends refuge dans le Bouddha, au-delà du Bouddha Shakyamuni, nous prenons refuge dans ce potentiel qui est en nous. Et quelquefois, c'est très bon de prendre refuge dans le Bouddha, dans ce Dieu qui, devant lequel nous pouvons nous permettre d'être tout petits et auquel nous pouvons adresser notre quête, notre aspiration, notre prière. Je me souviens très bien d'une retraite où j'étais fascinée par le Bouddha. C'était extrêmement bienfaisant de pouvoir, parce que c'est un lâcher-prise momentané de l'ego, de dire, mais aide-moi s'il te plaît, je peux rien. C'est très bon. Je savais bien que c'était Anicca, mais n'empêche que c'était une grande aide. Donc on peut prendre refuge dans le Bouddha de plusieurs manières. pas besoin d'être bouddhiste pour prendre refuge. Ceux qui ont plutôt un ancrage chrétien peuvent prendre refuge dans le Père, le Fils et l'Esprit. Nous pouvons aussi prendre refuge dans le Bouddha, ce serait plutôt la générosité, Le Dharma, ce serait plutôt la sagesse. Et la Sangha, ce serait plutôt la compassion. Vous pouvez trouver vos mots. Mais lorsque je prends refuge, ça veut dire que il y a autre chose. Il y a autre chose que ce monde des perceptions. Il y a autre chose que ce que mes sens me donnent comme vérité du monde. Et cette autre chose, on pourrait dire que c'est le Dharma. Quand je prends refuge dans le Dharma, je prends d'abord refuge dans les enseignements du Bouddha, le Bouddha Dharma. Le Bouddha a enseigné pendant 80 ans. C'est Ananda qui a tout l'aspect des sutras, tout l'aspect de ce que nous, qui nous intéresse nous, en tant que laïcs, a été mémorisé par Ananda. Et puis ça a été écrit une centaine d'années plus tard. Il y a de tout dans les sutras, il faut un peu trier. Il y a des pierres précieuses et puis il y a beaucoup de répétitions, des choses. Donc le Bouddha a une qualité qui est, en tout cas dans le bouddhisme, il y a une qualité qui m'est chère, c'est que le livre n'est pas un livre sacré, c'est une sorte de plan pour marcher sur le chemin. Mais le Bouddha dit et répète, vérifiez. Le but, c'est de... Nous rendons un enseignement vérité lorsqu'il nous aide, lorsque nous pouvons l'intégrer, lorsque nous en faisons quelque chose. Le Dharma, c'est aussi le 1. On peut donner plein de noms selon les traditions, les moments. Je l'ai déjà un petit peu élaboré. On peut dire l'au-delà, l'éternel, le non-né, le non-mort, l'ultime. Une grande liste. Là, j'ai trouvé chouchou, je répète, ça fait rien. Thich Nhat Hanh qui parlait du très fou. On dit des fois le très haut. On dit souvent le rien, ou le tout. Le nirvana. Est juste la fin de la saisie, la fin de l'aveuglement. Quand je prends refuge dans le Dharma, ça veut dire que je me lie aussi à ce qui ne peut pas être dit. J'aime beaucoup cette retraite de Pâques parce que Pâques, c'est la résurrection. Et que l'histoire du Christ, ben c'est l'histoire du Dharma. Il nous dit dukkha, il y a dukkha, c'est assez évident. Malheureusement, dans les églises, il n'y a toujours que dukkha. On se demande où ils ont mis la résurrection. On voit toujours que dukkha. Dukkha, dukkha, dukkha. Quand il y a une église où il y a le Christ en gloire en dessus, oh, ça fait tellement de bien. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très beau parce que lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » La cause de la souffrance, c'est l'aveuglement. Au fond, c'est du bouddhisme. Et puis après, il y a cette histoire de résurrection. Est-ce qu'il y a eu la résurrection des corps ? Au fond, on s'en fiche, mais... Lorsque nous allons au-delà de la souffrance, ou plutôt, ce que dit le Bouddha, c'est que la libération n'est pas à côté de la souffrance. La libération est au-delà de la souffrance, en allant au fond de la souffrance. Et c'est quelque chose que nous pouvons vérifier par rapport aux émotions perturbatrices. Comment... Lorsque nous avons suffisamment cultivé l'esprit, le corps et l'esprit pour qu'ils soient dans une certaine force intérieure, nous pouvons ouvrir à la peur et grandir à travers. C'est une résurrection. La peur lâche parce que nous l'avons exposée à la lumière de la conscience. C'est Saint Paul qui dit « Tout peut être exposé à la lumière. » Et tout ce qui est ainsi, il n'emploie pas le mot exposé, je ne sais plus quoi, ainsi offert, devient lui-même lumière. Et il y a ce chemin progressif et ce chemin immédiat. Le chemin progressif, c'est celui qui fait que pas après pas, je comprends mieux. Je me souviens quand j'étais jeune, les heures qu'on pouvait passer à discuter de Anatta, le non-moi, le non-moi, c'est quoi ce non-moi ? Et puis peu à peu, parce que l'exercice s'incarne, que la compréhension se clarifie. Alors, toute notre vie change. C'est pas que notre vie change, rien ne change. Mais tout le regard que je porte sur ma vie change. À John Sumedo qui dit « Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre regard sur le monde. » Et ce regard qui change, en fait, c'est une espèce de confiance qu'il y a une cohérence qui nous échappe. Et qu'il n'y a absolument rien qui ne soit pas à la hauteur de ce que nous et l'humanité pouvons transformer. Le chemin progressif, c'est aussi, dans la tradition Theravada, de voir les obstacles, voir les facteurs de l'éveil quand ils sont là, on en parlera peut-être. Reconnaître dukkha plutôt que tout de suite prendre la chose personnellement. Aller explorer toute cette histoire du désir qui nous mène par le bout du nez. Voir. Ah ben ouais, je suis franchement menée par le bout du nez. Ce désir de réussite, cette peur de l'échec. Dans l'exercice, dans une retraite. Désir d'être bien vu. De louange, la peur d'être blâmé. J'ose pas me lever, les autres verront que je peux pas faire une heure d'assise.
quoi le dukkha? C'est quoi le dukkha?
Le dukkha, la souffrance. Première vérité. La souffrance, l'insatisfaction, cette espèce de manque. On est franchement en manque. Souvent. Alors on essaye de pallier plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur. Mais ça revient toujours au même. Hein. On a de nouveau un désir, un autre. Bon, maintenant je sais plus ce que je disais. Enfin, le silence est très bienfaisant. Ah oui, ce qu'on comprend avec le Dharma, on comprend dukkha, on comprend que l'impermanence existe, on la voit cette impermanence. Et au lieu de se mettre à marcher à reculons et à vouloir garder les choses telles qu'elles sont, en payant des armes aux Ukrainiens pour que... Ah, lâche. Ce qu'on fait à l'extérieur, c'est ce qu'on fait à l'intérieur. Donc il y a cette compréhension qui est liée à ce refuge dans le Dharma. Et lorsque nous prenons refuge, lorsque nous ne comprenons rien, des fois ça arrive là, alors franchement je ne comprends plus rien là, totalement perdu, mais alors là c'est l'aveuglement total. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, je prends refuge. C'est bon. Je laisse faire le Dharma. Nous pouvons laisser faire. En général, dans la méditation, nous faisons beaucoup trop. Juste laisser faire. Je suis assise et je laisse faire. Vous pouvez faire ça, hein? Vous n'avez rien besoin d'écouter de ce que je vous dis. Vous êtes assis, vous laissez faire. C'est bienfaisant. Et puis, le Sangha. Que je prenne refuge dans le Bouddha ou dans le Dharma, c'est un refuge du cœur. Quelle gratitude nous pouvons avoir pour tout ce que nous recevons dans ce discernement qui fait que nous avons un chemin hors de la souffrance. Parce que nous sommes spécialistes pour nous faire souffrir. Sitôt que quelque chose change, imaginez vos maisons, on vous prend vos maisons. Les personnes qui nous sont chères, la santé. La vie est rude. Et lorsque nous prenons refuge dans le Bouddha, c'est une sorte de refuge dans une puissance qui inclut l'impuissance. Je sais que je suis impuissante. Et je prends refuge. Ça ne veut pas dire que ça va nous faire une vie parfaite, du tout, du tout. Ça veut justement dire que je peux coexister en paix avec cette vie qui est rude. Et quand je prends refuge dans le Dharma, c'est vaste, hein? Je prends refuge dans l'univers tout entier. Dans ce qui est espace et silence. Et c'est aussi le cœur qui devient immense. Et avec le Sangha, c'est cette reconnaissance de tout ce que les autres nous donnent. Au niveau spirituel, Au Il n'y a pas dans le bouddhisme de relation de maître à de gourou à disciple. Mais dans l'instant, ça se passe toujours. Tout d'un coup, je deviens le disciple du gourou. C'est pas que je fixe quelqu'un comme étant un gourou, mais tout d'un coup, il m'apporte quelque chose qui est tellement précieux. Et le cœur s'ouvre à cette personne. Non pas le cœur romantique. Et... On ne peut pas tellement être romantique avec Ajahn Sumedho. Mais ce cœur, cette source de l'être, et dans le dialogue conscient, par exemple, lorsque nous rencontrons l'autre dans une intimité qui n'est pas construite, c'est quelqu'un que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, et puis je parle de quelque chose, et tout d'un coup, c'est la personne qui est la plus proche de moi depuis ces derniers 6 mois. La Sangha, c'est cette communauté spirituelle qui est un soutien précieux. Je ne sais pas si on dit le Sangha ou la Sangha, moi je dis la Sangha. Mais c'est aussi toute notre interconnexion sur cette terre. Moi, je trouve merveilleux quand je réfléchis d'où vient le grain de riz. Thich Nhat Hanh, il est excellent pour ça, pour montrer cette interconnexion. Mais c'est vrai que c'est beau de sentir tous ceux qui ont participé quand je mange une cuillère de riz. Ou quand je viens dans cette maison. Cette maison, elle n'est pas apparue toute seule. Il y a déjà des gens qui ont dû la construire. C'était une association qui voulait promouvoir la région avec beaucoup de valeurs. Après, on a eu la chance de pouvoir acheter, parce qu'il y avait juste un petit mot dans leur statut. Si une association qui ont le même, qui a la même... énergie de bénévolat et d'aide à l'humanité, en gros, veut acheter, elle est prioritaire. Et alors, on était prioritaire, ils ont dû nous vendre avec ce qu'on pouvait donner. Ils nous ont vendu bien meilleur marché que s'ils avaient vu vendre à des promoteurs. Puis après, il faut la faire tourner, cette maison. Toutes ces aides invisibles autour qui font que la Sangha est précieuse, elle est aussi précieuse pour nous faire nous rendre compte que quand je dis moi, ou bien quand je dis maison mudita, c'est large. Moi, c'est pas grand chose. Moi, c'est vous, c'est les autres, c'est cette forêt, c'est cet air que nous respirons. Et dans cette sangha, nous avons nos préférences. Il y a ceux que j'aime bien, ceux que je trouve géniaux, ceux qui franchement, ceux que fouf, alors ceux-là, là je m'y frotte pas. Si on observe bien, ils sont tous précieux. Ceux auxquels je ne me frotte pas, et c'est parfaitement juste, il y a des êtres desquels nous n'avons pas à nous approcher. Nous n'avons pas besoin de rejeter la personne. Nous rejetons la relation qui est là et qui est nocive, ou qui est malsaine, ou qui est non bénéfique. Mais la personne, elle existe, je peux la tenir dans mon cœur. Elle n'est pas moins dans mon cœur qu'une autre, simplement le lien karmique est différent. C'est très important de sentir dans la Sangha que nous avons le droit d'avoir nos préférences, que nous avons le droit de ne pas vouloir côtoyer certaines personnes, et que ça ne veut pas dire que nous rejetons l'être de la personne. Parce que cette notion de cohérence est là. Il y a une cohérence. Que nous avons un esprit trop petit pour pouvoir l'apercevoir. Mais si nous sommes dans la confiance, sada, dans la foi, la confiance sage, ça aide énormément de prendre refuge dans la sangha de cette manière-là, dans toute la sangha. Même ce pauvre monsieur Poutine. Qui, ma foi, joue son rôle. Il doit bien. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui nous pousse, nous, quand tout à coup on fait quelque chose qui est franchement pas génial? Qu'est-ce qui nous pousse? C'est intéressant de poser la question. Donc, dans l'exercice de la méditation, nous pouvons employer la prise de refuge de différentes manières. Nous pouvons l'employer pour que ce soit notre sauveur. Mais je sais que je l'emploie comme ça. C'est pas que j'y crois. Mais je sais que c'est un outil précieux, juste maintenant, pour ne pas prendre refuge dans ce qui m'aime à l'aveuglement. Quand je vois toutes ces pensées perturbatrices, je prends refuge dans le bout d'un mois. Quand je marche, quand je fais la méditation marcher, je prends refuge presque tout le temps, parce que autrement ça pense. Quand, dans l'assise, pas tellement, mais dans la méditation marcher, ça va là. Parce que ces contacts que nous emmagasinons durant la journée, ils ont un certain poids. Ils ont un certain pouvoir. Et alors ça revient. Donc c'est bon de dire que ma priorité, c'est pas forcément de penser pour rien. Quoi. Que je veux bien volontiers employer la pensée de manière bénéfique, organisée. Mais quand c'est complètement inorganisé, mieux vaut prendre refuge, franchement. J'aime bien le symbole de Pâques avec l'œuf. Parce que avant que le poussin puisse faire toc-toc, puis montrer sa petite tête et puis s'ouvrir au nirvana, au dharma, ça doit bien s'organiser là-bas dessous. Il y a d'abord un œuf, puis du jus autour, puis ça s'organise. Et on peut sentir comment dans une retraite, ça s'organise tranquillement. Et d'une retraite à l'autre, ça s'organise. La clarté, la vision claire, la clarté mentale. Elle ne sort pas comme un lapin d'un chapeau. Elle est le résultat de notre travail intérieur. Et c'est un travail qui est sacré, parce que c'est le seul moyen de sauver la terre. C'est le seul moyen de sauver l'humanité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on le voit. Et je pense que... Alors, c'est... Mais je pense qu'il y a quelque chose qui travaille. Parce qu'on voit très bien chez nous comment, quand ça va mal, quelque chose est fortement vivant là, pour essayer de faire que ça aille bien. Puis quand ça va bien, ben ça va bien, mais là, ça roupille. Jusqu'à la prochaine, le prochain défi. Et de nouveau, ça se saisit de la bonne manière. Peut-être que c'est ce qui se passe dans l'humanité. On ne sait pas comment, dessous, les choses sont en train de se mettre en place. Il faudra peut-être un peu plus de catastrophes avant, mais ça se passe comme ça. Je ne sais plus qui disait « toute percée est suivie d'un effondrement », mais tout effondrement est suivi d'une percée. Je vous lis juste une petite parole que j'ai tirée, je ne sais pas d'où. Avez-vous vu le bonheur ou la souffrance apparaître dans les arbres ou les rivières? Le bonheur et la souffrance apparaissent dans nos corps et nos esprits. Si vous voulez connaître le Dharma, vous devez regarder à l'intérieur. Vous ne trouverez pas le Dharma en regardant ailleurs. C'est pour ça que la nature humaine est si sacrée. Je vais peut-être finir avec encore une parole d'Ajahn Chah. Le Dharma n'appartient à personne, il n'a pas de propriétaire. La vérité, le Dharma, la vérité. Il apparaît dans le monde lorsque le monde se manifeste. Pourtant, en tant que vérité, il demeure seul. Il est toujours présent, immobile et sans limite pour ceux qui le cherchent. C'est comme de l'eau souterraine. Celui qui creuse un puits la trouve. Pourtant que quelqu'un creuse ou non, elle est toujours là, fondement de toute vie. Dans notre aspiration pour le Dharma, nous cherchons trop loin. Nous croyons que le but est invisible, ne voyons pas l'essence. Le Dharma n'est pas là, au dehors, à être atteint après un long voyage qu'on peut observer au télescope. Il est ici et maintenant, tout près de nous.